La question du jour. En 2018, Emmanuel Macron avait supprimé l'ISF, ou plus exactement l'avait transformé en un impôt sur le patrimoine immobilier, l'IFI, et par la mise en place d'une flat tax, un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, hautement symbolique, perçu comme étant un cadeau fiscal destiné aux plus riches. Cette réforme a été très critiquée. Deux ans plus tard, France Stratégie a publié un rapport sur les effets de cette suppression. Bonjour Fabrice Langlard.
Bonjour.
Vous êtes président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital, hébergé donc par France Stratégie, un organisme d'évaluation et de prospective rattaché à Matignon. Alors, il faut tout d'abord expliquer en quoi consistait la transformation de l'ISF, et puis cette flat tax qui est probablement la plus méconnue.
Effectivement, le gouvernement, lorsqu'il s'est installé en 2017, a décidé de réformer la fiscalité du capital qui s'applique aux ménages fortunés. Et donc il a à la fois décidé de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune et de le remplacer plus exactement par un impôt de solidarité, mais uniquement sur la fortune immobilière. Et d'autre part, alors que depuis 2013, l'ensemble des revenus des capitaux mobiliers, c'est-à-dire les intérêts et les dividendes qui sont touchés par les ménages, étaient imposés à l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif, il a décidé de remplacer cette règle par une imposition flat tax, c'est-à-dire une imposition suivant un taux forfaitaire de 30%. Et c'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique.
Et alors, en quoi est-ce plus avantageux pour les plus riches?
Eh bien, les plus riches, par définition, lorsqu'ils payent l'impôt sur le revenu, ils sont imposés au taux marginal maximal de l'impôt sur le revenu, qui est aujourd'hui de 45%. Et donc, c'est pas la même chose sur un euro marginal que vous gagnez d'être taxé 45% que 30%.
Donc, c'est une fiscalité du capital qui a été largement transformée. Il était question, avant tout, de lutter, c'était ce que disait le gouvernement, contre l'exil fiscal. Est-ce qu'on a une idée de l'efficacité de cette mesure sur ce point-là?
En tout cas, on a de premiers indices qui permettent de montrer à la fois que, en termes d'exil fiscal, on observe une baisse des départs de contribuables fortunés à l'étranger, en fait, dès 2017, c'est-à-dire avant même que la réforme de la suppression de l'ISF soit supprimée, mais elle était dans le débat public, bien entendu, dès le début de l'année 2017, et cette baisse des départs semble se confirmer en 2018. Et à l'inverse, en termes de retour sur le territoire français, on observe en 2018, effectivement, une hausse des retours. Cela dit, lorsqu'on parle d'entrée et de sortie du territoire de contribuables fortunés, on parle à chaque fois de quelques centaines de contribuables. Il faut quand même rappeler aujourd'hui que l'impôt sur la fortune immobilière est payé par 130 000 foyers.
Est-ce qu'il est possible de chiffrer, alors à la fois ceux qui sont revenus et ceux qui sont restés, je sais bien que c'est compliqué, mais d'essayer de voir ce que cela a rapporté au patrimoine national, sachant que quelqu'un qui va évidemment à l'étranger ne paye plus ses impôts en France, c'est un peu une vérité de la palisse.
Alors, encore une fois, les entrées et les sorties correspondent à un petit nombre de contribuables, mais qui sont très fortunés. Cela dit, si on rapporte ça, disons, aux chiffres macroéconomiques du patrimoine possédé par les Français ou même par les contribuables les plus riches, ça reste quand même des sommes qui sont, en proportion du total du patrimoine, très modéré. Mais la question n'est pas forcément là, du point de vue du gouvernement, c'est de savoir si les personnes qui quittent le territoire, en particulier pour des raisons de fiscalité, ne sont pas des personnes qui sont, si elles étaient restées, auraient créé de l'activité, auraient été des entrepreneurs.
Et mais donc, ça, est-ce la question, que c'est chiffrable?
Alors, pour répondre à cette question-là, en fait, on ne sait pas, le comité d'évaluation n'a pas encore d'éléments de réponse.
Par contre, en maintenant un impôt sur le patrimoine immobilier, en limitant celui sur le capital financier, l'idée d'Emmanuel Macron était d'encourager les détenteurs donc de dividendes à investir dans les entreprises françaises. Est-ce que l'on sait s'ils l'ont fait?
On ne le sait toujours pas. On ne le sait toujours pas parce que, en fait, les chercheurs universitaires avec lesquels France Stratégie travaille ne disposent pas encore des données nécessaires pour répondre à cette question. En revanche, ce que les chercheurs ont fait, c'est d'évaluer non pas la réforme du prélèvement forfaitaire unique qui est survenue en 2018, mais la réforme précédente, c'est-à-dire celle dont j'ai parlé auparavant, qui a consisté à imposer cette fois-ci à l'impôt sur le revenu ces mêmes dividendes et intérêts. Et donc cette réforme, elle a eu lieu en 2013. Et là, on dispose du recul nécessaire. Et ce qu'on observe sur cette réforme-là, c'est que à la fois en 2013, lorsqu'on accroît la fiscalité, les dividendes perçus par les ménages chutent, mais lorsqu'on observe du côté des entreprises, en particulier les entreprises qui sont plus particulièrement détenues par des contribuables, enfin par des particuliers, on observe ces entreprises en fait n'ont pas plus ou moins investi qu'auparavant. Et alors, je parle de la réforme de 2013.
D'accord. Et alors, est-ce que l'on sait si les caisses de l'État, parce que ça quand même, on le sait, est-ce que les caisses de l'État ont profité de ces réformes?
Alors, je reviens à la réforme de 2018. Donc la réforme de 2018, elle allège la fiscalité. Donc si on fait fi de des effets de comportement, en principe, elle devrait amener à une baisse des recettes fiscales. Et donc quand on fait le calcul, si j'ose dire en statique, on devrait observer une baisse de 1,5 milliard sur l'impôt sur le revenu. Mais il se trouve qu'en 2018, au moment où cette réforme est implémentée, le rapport documente le fait que les dividendes ont au contraire énormément augmenté. Et donc ce surcroît de dividendes distribués aux ménages, aux contribuables aisés, a généré des recettes fiscales supplémentaires.
Ce qui est intéressant en fait, c'est que le discours d'Emmanuel Macron a toujours consisté à dire « on évaluera ». Mais on se rend compte en vous écoutant qu'il est extrêmement compliqué d'évaluer et que finalement il est assez peu probable qu'on arrive à un stade où on pourra dire « cette mesure était bonne ou était mauvaise », Fabrice Langlard.
Le travail d'évaluation, c'est un travail qui prend du temps. Il faut disposer des données, il faut disposer de temps aussi pour les équipes universitaires qui le font. Et donc, il s'inscrit dans la durée. Le rapport dont on parle aujourd'hui, en fait, c'est le deuxième rapport qui est publié. On en aura un troisième l'an prochain. Et j'espère bien, au vu des données qui seront disponibles, avoir quand même des éléments de réponse, à la fois sur le coût net de la réforme sur les finances publiques, mais également sur l'effet qu'avait eu jusqu'à présent l'implémentation de l'impôt de solidarité sur la fortune, cet effet sur le tissu productif.
Bon, est-ce qu'il y a au moins des conséquences en termes d'inégalité? Parce que là, on imagine que les revenus des plus fortunés ont explosé.
C'est tout à fait exact. En 2018, on observe, donc, comme je l'ai dit, une très forte progression des dividendes distribués aux ménages. Et évidemment, ces dividendes sont extrêmement concentrés. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils sont d'habitude très concentrés, mais en 2018, cette concentration, elle augmente. Je vais vous donner un chiffre pour le résumer. En 2018, les dividendes versés sont de 23 milliards. Eh bien, les deux tiers de cette somme vont à 0,1% des foyers fiscaux, c'est-à-dire à peu près 38 000 foyers fiscaux. Et donc, c'est les deux tiers en 2018. Et en 2017, en fait, eh bien, les 0,1% des foyers fiscaux les plus fortunés touchaient non pas les deux tiers, mais la moitié de la somme.
Bon, donc on voit que là, on a des conséquences. Et puis, on avait beaucoup évoqué la théorie du ruissellement. Alors, certains disent que cette théorie n'en était pas une, qu'il n'y avait aucun ruissellement. Est-ce que là, on a un indice, je ne sais pas moi, sur les dépenses de ces ménages les plus fortunés qui donc ont eu un surcroît de pouvoir d'achat?
Non, on ne l'a pas à ce stade. Là encore, faute de données et de recul suffisant.
Est-ce que c'est possible de l'avoir?
On aura, comme je vous l'ai dit, l'an prochain, normalement, des données qui permettront éventuellement de capter un effet de ces réformes sur des entreprises qui seraient plus particulièrement détenues par des personnes physiques. Parce que les données seront arrivées, seront dans la main des chercheurs et elles pourront être travaillées. Cela dit, l'an passé, lors de notre premier rapport, on a fait une revue de littérature à la fois internationale, économique, théorique et empirique. Et ce qu'on observe globalement dans la littérature, c'est que autant des réformes de la fiscalité du capital qui portent sur les entreprises, par exemple une baisse de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, a dans bien des pays des effets potentiellement sur l'investissement des entreprises et même également sur l'emploi et même sur les salaires, autant lorsque c'est la fiscalité des ménages qui bouge, en général à l'international, je parle d'autres réformes en général, on observe très peu de choses sur le tissu productif, on observe des choses en fait sur la dynamique des patrimoines des particuliers.
Est-ce que le gouvernement vous a interrogé là-dessus, puisque l'organisme auquel vous appartenez est rattaché à Matignon, Fabrice Langlard?
Alors, le comité d'évaluation est abrité effectivement par France Stratégie qui dépend de Matignon. Cela dit, le comité d'évaluation est indépendant. Il est composé à la fois de personnalités qualifiées.
Votre indépendance, c'est une chose, mais est-ce que le gouvernement vous a interrogé sur les conséquences de cette réforme?
Eh ben, c'est en fait le gouvernement a installé le comité une fois qu'il a passé la réforme. Et donc la question, c'est la question de ce qu'on appelle l'évaluation ex post. Donc il a mis en place les conditions dans la durée pour que cette réforme soit évaluée a posteriori. Et donc il s'est implicitement mis dans une position de pouvoir, s'il le souhaite, en tirer les conséquences si l'évaluation s'avère positive ou négative.
Merci beaucoup Fabrice Langlard. Je rappelle que vous êtes président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital. Il est 7h23 sur France Culture.